Alors, on va continuer ce matin, Actes. On est en Actes, chapitre 21, et on va lire versets 15 à 26. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Mnason de l'île de Chypre, disciple de longue date chez qui nous devions loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent: « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses et qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire de ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Donc l'apôtre Paul est ici de retour à Jérusalem. Hein, il a fait plusieurs voyages. Il est accompagné donc de Luc et aussi d'autres disciples qui étaient païens. Hein, on voit ça au chapitre 20, un petit peu plus tôt, chapitre 20, verset 4. Donc ils sont comme un petit groupe de chrétiens ici. Et c'est intéressant de voir que quand ils arrivent sur Jérusalem, les disciples de Césarée vont conduire ce petit groupe chez Mnason. Alors, Mnason, on pense que c'était un juif helléniste, donc quelqu'un qui avait grandi, plutôt, eh bien, ici, il dit, hein, dans l'île de Chypre. Et donc, c'est intéressant parce qu'on se dit peut-être que Mnason était l'homme vraiment qui pouvait les accueillir, parce que lui, il connaissait la culture grecque. Et donc, ce n'était pas un juif de Galilée qui n'était jamais sorti d'Israël. Et donc, voilà, ça allait bien se passer, personne n'allait être choqué et tout allait aller pour le mieux. Aussi, on remarque une chose intéressante, c'est Mnason était un disciple de longue date. De longue date. Donc, ça veut dire, mais est-ce qu'il n'était pas parmi les premiers disciples finalement, hein, au tout commencement de l'église de Jérusalem, à la Pentecôte? Et ce qui est intéressant, c'est que on se dit que Luc a dû prendre beaucoup d'informations de ce disciple qui était de longue date et qui savait plein de choses. Hein. Alors Luc, c'est celui qui a écrit le livre des Actes, mais il a aussi écrit son évangile, hein, de son nom. Et donc, il y a des choses qu'il n'a pas vécues, il n'a pas vu lui-même, mais il a pu glaner eh bien, toutes ces informations. Ah bon, comment ça s'est passé? Et ainsi, eh bien, ajouter à la connaissance qu'il avait déjà. Et puis, il est fait mention de la joie des disciples au verset 17. Et c'est utile de préciser que Paul arrivait avec une offrande pour les pauvres de Jérusalem, les disciples qui étaient plus pauvres. Et donc, ben, voilà, c'était une grande joie, non seulement eh bien, de recevoir Paul en tant que frère, mais aussi de voir eh bien, qu'il allait apporter cette aide pour tous eh bien, les veuves et toutes les personnes qui étaient en difficulté. Et on peut dire que c'est vraiment un témoignage de l'amour au sein de l'Église, parce que c'était des païens qui, pour la plupart, n'avaient jamais vu hein, aucun de ces frères de Jérusalem. Et pourtant, eh bien, ils ont voulu faire une offrande du cœur. Et voilà. Voilà, on vous aime. Et c'est beau, ça, hein? C'est à garder dans nos cœurs. Hein? On peut aussi aider des personnes que l'on n'a jamais vues, simplement parce que, eh bien, elles sont au Seigneur. Hein? Et elles sont dans le besoin. Et puis verset 18, le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Et c'est intéressant ici de voir, eh bien, il va expliquer comment il a répandu l'évangile. Et en chantant ce cantique, là, tout à l'heure, on était en train de chanter le 282. Et quand il est écrit dans la troisième strophe, « Hélas, dans ma folie extrême, Seigneur, je ne te cherchais pas. Tu daignas me chercher toi-même. Ta grâce a prié sur mes pas. » Je ne te cherchais pas. Et les païens ne cherchaient pas Dieu. Ils étaient loin, hein, dans toute leur idolâtrie, loin du Seigneur. Mais Dieu, lui, a voulu aller chercher les païens. Et Dieu a envoyé Paul pour leur annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Peut-être que Dieu a envoyé quelqu'un pour vous annoncer l'évangile de Jésus-Christ. On a tous besoin de comprendre que Jésus a versé son sang et que ce sang, c'est la seule chose qui puisse nous racheter. Si on veut être revêtu, on a chanté aussi tout à l'heure, revêtu de sa justice, eh bien, il faut croire, accepter, se repentir, croire dans ce sang précieux qu'il a versé sur la croix pour nos péchés. Et si chez Mnason, c'était une rencontre un peu informelle, là, entre frères, ici, il va y avoir une autre rencontre qui va être plus formelle, hein, puisque c'est chez Jacques et avec tous les anciens de Jérusalem. Combien étaient-ils ? Certainement plusieurs dizaines, hein, d'anciens. Quand on regarde l'église de Jérusalem, mais elle était gigantesque, hein, c'était une méga-church, hein, comme on en voit aux États-Unis, hein, un peu différente, mais quand même. Et ils vont se réjouir ensemble, hein, de voir que l'évangile s'est répandu partout. Mais le cœur du sujet de notre message, c'est une inquiétude dans le cœur des anciens de Jérusalem. Ils sont inquiets. Pourquoi ? Parce qu'il y a des rumeurs qui circulent, des rumeurs qui ne présageaient rien de bon. Non pas qu'ils croyaient, eux, à ces rumeurs, mais en tout cas, c'est clair que certains commençaient à y croire. Versets 20 à 22. « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc ? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. » Et au travers de cet événement, j'aimerais aborder le sujet de la liberté chrétienne. Et un effet de la conversion à Jésus-Christ, quand on vient à lui, c'est qu'on est libre. Vous êtes libre si vous avez accepté Jésus-Christ. Le Seigneur dit dans l'Épître aux Galates, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Et c'est une parole très forte. Hein. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de parler avec un témoin de Jéhovah. Et c'est frappant quand même de voir la différence qu'il y a entre l'évangile de Jésus-Christ qui libère et puis un collège central qui domine et qui écrase. C'est incroyable. Et ce qui m'a le plus choqué en parlant petit à petit, donc c'est quelqu'un qui prêche, hein, il fait partie des anciens, hein. C'est l'uniformité. C'est ça qui m'a choqué. Imaginez un organisme central qui envoie le sujet du message de toutes les assemblées sur l'international. Vous avez le thème central, vous avez les points, et vous avez le droit de mettre une petite illustration par-ci, par-là, hein, juste pour égayer un peu la chose, hein. Voilà, ça part d'en haut et ça descend en bas, l'uniformité. Dieu dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et la liberté, c'est quelque chose de merveilleux, la liberté chrétienne. Nous ne sommes pas tous des robots pensant de la même manière. Nous ne sommes pas non plus tous programmés, hein, de la même manière, hein, mais Dieu nous a créés différents. C'est pour ça que moi j'aime bien le chocolat noir, hein, et il y en a qui préfèrent le chocolat au lait. ou blanc même. Moi, j'aime pas du tout le chocolat blanc, alors vraiment pas. Voilà, on est différents. Hein. C'est aussi pour ça que l'Église de Jésus-Christ, elle est variée. Hein. C'est vrai, hein, on est obligé de constater, c'est un fait. Elle est très variée, l'Église de Jésus-Christ. Hein. On n'a pas tous été faits, on n'est pas tous dans le même moule. Qu'est-ce que la liberté chrétienne dans notre texte ? C'est la liberté d'agir comme on l'entend dans la marge de manœuvre que Dieu nous accorde. Et il y a une marge de manœuvre. C'est la liberté que nous possédons tous. On lit qu'il y avait des milliers de juifs ici qui étaient zélés pour la loi. Et milliers ici, c'est un mot qui est traduit parfois par multitude. En fait, c'est dire, mais il y avait un grand nombre, hein, plusieurs dizaines de milliers de juifs, on imagine, hein, et tous sont zélés pour la loi. Donc, ils étaient très attachés à l'enseignement de Moïse. Et leur conversion à Jésus-Christ n'avait fait que raviver, finalement, hein, tout cet enseignement de Moïse. Mais il y avait une rumeur. Paul enseignerait à renoncer à Moïse. Et il enseignerait à ne pas circoncire les enfants. Et il enseignerait à ne pas se conformer aux coutumes des Juifs. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était vrai? Lorsqu'on lit l'Épître aux Galates, on voit que Paul enseigne clairement qu'il n'est pas nécessaire de se faire circoncire. C'est écrit, hein? Il dit « Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude ». Mais ce qui pouvait déranger ces Juifs convertis ici à Jérusalem, ce n'était pas que Paul enseignait cela aux païens, mais c'était qu'il enseignait ça à des Juifs. Alors là, ça les dérangeait. On lit au verset 21, « Ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse. » Et leur problème, ce n'était pas que des païens ne mettent pas en pratique la loi de Moïse, ou que des païens ne fassent pas circoncire leurs enfants, ou que des païens ne se conforment pas aux coutumes juives. Leur problème, c'était d'imaginer que des Juifs puissent abandonner la loi, puissent ne pas circoncire leurs enfants et ne pas pratiquer toutes les coutumes juives. Ça, c'est ce qui les contrarié, qui les choquait même. Hein. Eux, Juifs, zélés pour la loi. Mais ces accusations étaient fausses. Elles étaient fausses. Quoique Paul n'encourageait pas à judaïser, il n'était pas contre le fait que les Juifs continuent dans leurs coutumes. Du moment que ça ne comptait pas pour leur salut, hein, qu'ils ne s'appuyaient pas sur cela pour être sauvés, alors ils étaient libres, hein, libres de continuer. Et c'est d'ailleurs ce que Paul faisait lui-même, puisque lui s'est senti libre de faire un vœu. On a vu ça dans les chapitres précédents, donc selon la coutume. Et d'ailleurs, Jacques n'est pas en train de douter de l'apôtre Paul, en train de se dire « Mais est-ce que toi, tu respectes ?» Non, non, il n'a aucun doute, Jacques. Hein. Il est confiant. Et c'était vrai. Mais l'enseignement de Paul, c'était aussi que nous sommes libres en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie que les Juifs peuvent observer la loi, peuvent circoncire leurs enfants, peuvent pratiquer les coutumes, et que les païens peuvent ne pas les circoncire, ne pas pratiquer les coutumes, ne pas pratiquer la loi. Et c'est là que se trouve la liberté de chacun. Quand j'étais jeune converti, je pensais que tous les chrétiens... Quand j'étais jeune converti, je voyais tous les chrétiens avec des pantalons à pinces. Hein, comme j'ai ce matin. Alors moi, j'étais arrivé dans l'église avec un jean mais déchiré, quoi, hein, bien déchiré. Et maintenant, donc j'avais donné mon cœur à Jésus-Christ, hein, je m'étais repenti. Il était entré, il m'avait sauvé. Et là, je remarque, hein, mince, ils ont tous des pantalons à pinces. Alors j'ai fini par me dire, mais... Dieu veut que tous les chrétiens portent des pantalons à pinces. Hein? On en tire une conséquence. Et on est parfois comme cela, à penser que tout le monde devrait être dans le même moule, exactement pareil. On devrait tous être comme ceci ou tous comme cela, ou porter ceci, ou faire comme cela. Mais si Dieu a fait des jonquilles, c'est le printemps là, hein? Je ne sais pas si elles éclosent maintenant, mais s'il a fait des jonquilles, s'il a fait des tulipes, hein, du muguet, du lilas, des orchidées, des roses, si la création elle est si belle, elle est si variée, si colorée dans ses formes, dans ses textures, dans ses senteurs, hein, elle est tellement belle, la création. Alors, est-ce que ce n'est pas possible qu'il puisse aussi y avoir une grande variété, et notamment dans l'Église de Jésus-Christ et parmi les chrétiens? Assurément. Est-ce que Dieu aurait prévu un uniforme pour tous ses enfants? Une manière d'être? Je ne crois pas. Nous sommes uniques, chacun pour notre part, hein, et Dieu ne nous force pas à rentrer dans un moule. C'est la liberté chrétienne. Paul dit en 2 Corinthiens, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Nous sommes libres. Et il y a, c'est vrai, une vraie liberté dans le Seigneur. La liberté d'agir selon sa conscience. On est entièrement libre. Je peux faire tout ce que je veux. Ça vous choque, ça, hein? Je peux faire tout ce que je veux. C'est la liberté des enfants de Dieu. Mais avant que vous sortiez de cette salle avec la joie et la paix, je suis libre. Je vais quand même vous dire la deuxième partie. C'est qu'il y a des limites à cette liberté. Elle est réelle, elle est vraie. Nous sommes libres, mais il y a quand même des limites à cette liberté. Quelles sont ces limites? La première limite, c'est bien sûr la parole de Dieu. Hein, c'est clair. La parole de Dieu, elle nous donne un cadre ici. Hein. Je ne suis pas libre de tuer, je ne suis pas libre de voler, parce que la Bible dit « tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne déroberas point ». Et même cette loi, on peut dire, elle est inscrite, cette loi morale de Dieu, elle est dans notre cœur, on le sait, hein, quand on ne devrait pas faire quelque chose et qu'on le fait quand même. Et elle se résume avec le commandement que le Seigneur a donné. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ce qui est le premier, et ton prochain comme toi-même, ce qui est le second et qui n'est pas moins important. Et au travers de ces deux commandements, bien, tout est résumé là. Si j'aime Dieu vraiment, et donc je le sers, je lui obéis, alors eh bien tout va bien. Et si j'aime mon prochain vraiment, vraiment, alors eh bien, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Avec ces deux commandements, je suis libre. Du moment que je ne transgresse pas ces deux commandements, je suis vraiment libre, je peux faire ce que je veux. Première limite. Deuxième limite. La deuxième limite, c'est celle de ne pas offenser son frère ou sa sœur. Et c'est ce qui ressort de notre passage des Actes. Le souci de Jacques et des anciens, c'était justement ce choc, hein, à cause de cette rumeur. Il paraît que Paul n'observe pas la loi. Alors on pourrait se dire, mais où est la liberté chrétienne là? Est-ce que Paul n'était pas libre finalement de faire ce qu'il veut en Christ? Est-ce qu'il est libre des ordonnances de la loi ou encore eh bien, sous la loi? Est-ce qu'il est libre des coutumes juives ou encore, eh bien, sous les coutumes juives? Mais notre limite, doit être la crainte d'offenser, de blesser, de choquer mon frère ou ma sœur. Et un verset qui explique bien ça, c'est 1 Corinthiens 8, verset 9. Regardez. 1 Corinthiens 8, verset 9. Il est dit, « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles, une pierre qui fait tomber quelqu'un qui serait faible. Et nous sommes libres, mais on ne doit pas faire chuter notre frère ou notre sœur, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait une conscience plus sensible sur des points qui, pour lui, seraient importants, même s'ils ne le sont pas tant que ça. Ce n'est pas ça le sujet, hein. Mais lui, au niveau de sa conscience, il est sensible à ça. Et lui, ça le retourne. Et il se dit, mince, on est en train de pécher contre Dieu. Alors non, là il faut faire attention. Et l'exemple qui est cité dans ce passage d'1 Corinthiens 8, c'est les viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. Pourquoi? Parce que les païens, tuaient une bête, hein, l'étouffaient ou la saignaient, et après, quand ils le faisaient, ils l'offraient à un dieu. Voilà. Parfois, ils offraient une partie de la chair aussi à un dieu. Et donc, l'animal était offert à tel dieu. Et puis ensuite, ils vendaient ce qui reste sur un autel, sur un étal de marché. Et alors, eh bien, les chrétiens se disaient, mince, je ne vais pas manger une viande qui a été sacrifiée à un tel ou un tel. Et derrière, eh bien, il peut y avoir ces démons. Hein. Alors, eh bien, il leur était impossible d'en manger. Et la suite du passage l'explique. Regardez, on va lire les versets 10 à 13. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Et on a là ici la liberté de manger de tout ce qui se vend au marché, dit Paul, sans motif de conscience. On n'a pas à s'enquérir de rien, c'est-à-dire on peut acheter tout ce qu'il y a sur le marché. Même eux, si c'était sacrifié aux idoles, ce n'était pas un problème, il le dit dans un autre passage. Mais ma liberté s'arrête si un frère est sensible à ces choses et dit « Mais attends, là, tu pêches en faisant ça. » Alors là, non, je m'abstiens même, je ne mange même pas de viande, il dit. On n'en mange même pas. Si c'est pour blesser des frères, non, ce n'est pas la peine. Et c'est aussi pour cela qu'il a été donné des recommandations. On a lu dans Actes aux païens en leur disant « Mais ne mangez pas des animaux étouffés, le sang et qu'est-ce qu'il dit aussi les viandes sacrifiées aux idoles. » Donc c'était afin de ne pas blesser les frères juifs. Et ma liberté, elle ne doit pas devenir un croche-pied pour mon frère ou ma sœur. Et il faut savoir que on n'a pas tous les mêmes expériences de vie. Nos tracés de vie sont différents. Nous sommes nés dans des cultures différentes, dans des familles différentes, avec une éducation différente. On est tous différents. Mais ça veut dire aussi que nos excès ou nos chutes du passé sont différents. Et c'est pourquoi on ne va pas être sensible aux mêmes choses. Pour certains, l'alcool, par exemple, ça va être vraiment un sujet tabou. Hein. Vraiment, vous allez aux États-Unis, l'alcool, mais on n'en parle même pas. On rejette ça, vraiment. Pour d'autres, ils vont se dire, mais la danse, c'est vraiment tabou, ça. J'ai un frère, un jour, il m'a dit... Je me suis inscrit à un cours de, je ne sais plus si c'était la valse ou... Je l'ai regardé avec des yeux comme ça, j'étais surpris. Voilà, il voulait apprendre à danser la valse. Bon, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Et il y a des choses qui peuvent nous choquer, mais qui sont différentes en fonction des uns et des autres. Pour d'autres, c'est la richesse qui va être tabou. Et je pensais au jeune homme riche dans les évangiles. Vous vous souvenez, ce jeune homme riche qui est parti tout triste parce que le Seigneur lui a dit « Mais vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. » Imaginez que le jeune homme riche ait vendu tout ce qu'il avait et qu'il l'ait donné aux pauvres. Et après, il sert le Seigneur, voilà. Et il devient donc un chrétien. Hein. Et puis, il rencontre d'autres chrétiens. On va parler peut-être des femmes de distinction. La Bible parle des femmes de distinction, donc des femmes de haut rang, hein. Il en rencontre, et puis elle ne vend pas tout. Elle ne donne pas tout aux pauvres. Mince. Pourquoi moi? Et voilà, ça crée un problème. Ça crée un problème dans son cœur. Et notre passé, il faut savoir que lui était très attaché à la richesse. Et c'était son problème, en fait. Hein. Donc, si le Seigneur a mis le doigt dessus en disant « Mais vends tout ce que tu as », c'était que c'était ça, son problème. Et parfois, ce qui est notre problème, eh bien, voilà, il faut vraiment tourner la page. Hein. On sacrifie, on met de côté. Et puis après, eh bien, ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne puisse pas faire la chose. Mais pour moi, c'est comme ça. Pour moi, c'est comme ça. Et notre passé, nos expériences, nos faiblesses conditionnent notre vision actuelle de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire pour plaire au Seigneur. Tout ça, ça nous trace une certaine ligne quand même. Et on peut comprendre que certaines choses sont choquantes pour certains chrétiens. Pour eux, ils se disent « mais ce n'est pas compatible avec une vie pieuse. Impossible. » Et puis d'autres se disent « mais je ne vois pas, moi ça va, hein. Moi je me sens libre. » Imaginez quand la télé est arrivée dans les foyers. Hein? C'était quelque chose. Hein? Et puis aujourd'hui, plein de chrétiens avec une télé. Alors, la télé est mauvaise ou pas? Donc, on ne pourrait pas trancher comme ça. Hein? C'est plutôt l'usage qu'on en fait. Et donc, ce qui est important, c'est dans la liberté chrétienne, je ne vais rien faire qui va choquer mon frère ou ma sœur. Je vais préserver mon frère ou ma sœur. Troisième limite, c'est celle de rechercher le bien, de rechercher l'édification et le salut de ceux qui nous entourent. On veut le bien de ceux qui nous entourent. Et dans le deuxième aspect, c'est l'aspect négatif, ne pas faire quelque chose qui offense mon frère ou ma sœur. Mais ici, c'est plutôt l'aspect positif hein, qui est important. Je vais chercher à ce qu'il y ait du bien pour lui. Si vous voulez prendre 1 Corinthiens 10, versets 23 à 33. Il est dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère ? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce ? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Et l'apôtre ici souligne que la liberté chrétienne ne doit pas venir nourrir notre satisfaction personnelle. Finalement, notre jouissance de faire ce que nous voulons. On est libre, c'est vrai, mais la liberté s'arrête là où ça ne sera pas utile pour le bien de ceux qui sont autour de moi. Le but, c'est de servir à la gloire de Dieu et que tout serve à l'édification du corps de Christ et au-delà de ceux qui m'entourent. Et si ma vie, elle est une provocation pour les faibles, alors je ne suis pas en train de faire tout pour la gloire de Dieu. Notre vie doit être plutôt un enrichissement pour les autres. Alors, il est certain que c'est plaisant de jouir d'une pleine liberté. Mais Paul dit ici que le chrétien ne doit jamais oublier qu'il ne vit pas pour lui-même. Le but de sa vie chrétienne, ce n'est pas de chercher son avantage, de chercher son intérêt, sa satisfaction, de vivre finalement égoïstement dans la liberté, dans sa liberté, mais c'est plutôt de chercher le bien et l'enrichissement de ceux qui sont autour de lui. Et Paul renvoie à deux questions. Il dit finalement, il renvoie à cette question, qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui édifie le plus le corps de Christ ? Est-ce que c'est jouir de ma liberté momentanément, ou pardon, jouir de ma liberté ou m'en priver momentanément. Est-ce que je dois vraiment, mais alors, je suis libre, je vis, etc. Puis bon, ben, je ne pense pas trop à l'édification de ceux qui m'entourent. Ou bien non, je vais me priver momentanément de ma liberté. Pourquoi ? Parce que je vais chercher à édifier mon frère ou ma sœur. Pourquoi je dis momentanément ? Parce qu'il dit, Paul dit, je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère ? Ça veut dire que votre liberté, vous l'avez. Dieu ne nous l'ôte pas. On est libre, je suis libre de regarder la télé, par exemple. Hein? Mais si mon frère est choqué de voir que je regarde la télé, ou s'il est là en ma présence, je ne vais pas allumer la télé. Hein? On va essayer de préserver. Mais chez moi, eh bien, dans mon intimité, puisque Dieu me donne la liberté de regarder la télé, ben, je peux regarder la télé. Pourquoi ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère ? Non, nous sommes libres. Et la conscience des autres ne doit pas nous priver de notre liberté. Mais on doit être capable d'y renoncer pour ne pas blesser notre frère, notre sœur, et pour chercher au contraire l'édification de notre frère et de notre sœur. Quatrième limite de la liberté, c'est le refus de l'asservissement. Regardez 1 Corinthiens 6, 9 à 12. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Et quand on dit liberté chrétienne, ça ne veut pas dire licence chrétienne. Que je suis libre de faire exactement ce que je veux. On l'a vu, hein, une des limites, c'est la parole de Dieu. Ne pas transgresser la parole de Dieu. Il est dit que le péché ne règne pas dans vos corps mortels. N'obéissez pas à ces convoitises. Ça signifie que ma liberté va s'arrêter là où le péché commence, dans mon cœur. Et on vient de lire ce rappel, hein, ceux qui pratiquent la débauche, l'idolâtrie, l'adultère, les perversions sexuelles, etc. Et au travers de tous ces péchés, on voit qu'il y a un asservissement. Hein. C'est le péché asservit l'homme. Et on peut dire que le péché est quelque chose qui nous rend esclaves. C'est ce que Jésus a dit lui-même. Il a dit « Quiconque se livre au péché devient esclave du péché. » Et c'est facile de dire et de se dire « Je suis un chrétien libre, je suis un chrétien fort, moi je peux faire ceci, je peux faire cela. » Mais la vraie liberté, elle est dans la maîtrise de soi. Et de pouvoir dire « Je suis un chrétien libre, mais aussi libre de ne pas faire. » et de me priver, et de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela. Je me souviens quand j'étais fumeur, entouré d'autres fumeurs, j'entendais souvent cette phrase, et peut-être, je ne me rappelle plus, je devais la dire moi-même, « Oh, moi, j'arrête quand je veux. » Vous avez déjà entendu ça, hein ?« Moi, j'arrête quand je veux. Oh, »« Quand je veux. » C'est un peu ridicule, hein ? C'est un peu ridicule. Mais la vraie liberté, ce n'est pas de dire que on est capable de faire quelque chose, mais c'est de le faire. Alors là, oui, on est libre. Et là où il y a un asservissement, il n'y a pas de liberté. Et là, ça ne rentre plus dans le cadre de la liberté chrétienne, puisque eh bien, on bascule dans l'asservissement, et Dieu ne veut pas l'asservissement. Donc on est en train de pécher contre Dieu, puisqu'on est esclave. Et c'est clair que dans notre monde, il y a plein de formes d'asservissement, hein, énormément. Il y a des asservissements nouveaux qui n'existaient pas à l'époque de l'apôtre Paul, et puis il y en a des anciens, toujours les mêmes, hein, qui demeurent. Dans les années 90, on aurait seulement parlé de la télévision, en se disant, mais vraiment, ça peut asservir une personne, voilà, elle a avachi, elle regarde pendant 4 heures, 5 heures la télévision. Mais aujourd'hui, Internet est petit à petit en train de prendre le pas, hein, et hop, on est en train de basculer et on est en train de tomber dans un autre asservissement. Avec les réseaux sociaux aussi, hein, il y a un vrai asservissement, on revient sans cesse, on est prisonnier. Et il y a une dépendance et une possibilité de, voilà, d'être prisonnier de ces choses. Cette semaine, j'ai fait une expérience. Donc, d'habitude, Après mon moment avec le Seigneur, le matin, je descends, j'ouvre mon ordinateur, je regarde les mails, je regarde un peu les informations, qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et je me suis dit, bon, il faut essayer de casser un peu ça, là. Je ne vais pas allumer mon ordinateur. Et alors, eh bien, je l'ai fait. Hein. Pas d'informations hebdomadaires, je ne saurai rien de ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas grave. On va voir comment ça se passe. Eh bien, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien, finalement, de rompre avec une habitude. Il y a des habitudes qui s'installent. Hein, comme ça, on les fait, on les fait, on les fait encore. Et il y a une certaine forme d'asservissement. Et si Dieu veut que nous regardions l'utilité commune et qu'on se pose la question, est-ce que c'est utile pour les autres ? Dieu veut aussi qu'on se pose la question de savoir si c'est utile pour nous-mêmes. Est-ce que ce que je fais, ce que nous faisons, c'est vraiment utile pour nous-mêmes ? Paul dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Est-ce qu'il y a certaines choses dans notre vie qui nous asservissent finalement ? Est-ce que c'est vraiment utile qu'on continue dans cette direction ? Et on voit que l'asservissement, ça concerne le péché d'une manière qui est grossière, mais ça concerne aussi des petites choses, peut-être des choses qui sont plus anodines. Mais finalement, elles font que nous ne sommes pas réellement libres ou plus réellement libres. On devient comme prisonnier. Et la liberté chrétienne, elle refuse l'asservissement. Par le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons et nous devons souhaiter être réellement libres. Vous connaissez ce verset, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Quelle puissance dans ce verset. « Si le Fils vous affranchit, vous serez libre, entièrement libre. » Mais parfois, c'est un peu difficile à comprendre parce qu'on n'est pas dans une pleine liberté. On connaît le verset, c'est écrit, mais on n'est pas dans une pleine liberté. Alors, on fait des efforts pour ne plus faire ceci, pour ne plus faire cela. Et vraiment, on essaye parce qu'on veut plaire au Seigneur. On aspire à la liberté. Mais la liberté, elle n'est pas là. Mais le verset dit, ne met pas l'accent sur l'homme. Il met l'accent que sur le Fils. Si le Fils vous affranchit, alors vous serez libre. C'est le Fils qui affranchit. C'est lui qui brise les chaînes, hein, comme on le chante dans un cantique. C'est lui qui délivre. Ce n'est pas nous. Nous, on ne peut pas se libérer des asservissements. Et nos efforts ne suffisent pas. Il faut qu'il y ait une action d'en haut, une grâce qui tombe sur nous. Mais la grâce, elle vient quand nous, dans notre cœur, on dit « Je veux être libéré, Seigneur. Je suis esclave de ça. Je le vois. Je retombe tout le temps. Je n'arrive pas à me libérer. Je te demande de m'aider. » De briser ma chaîne et de m'accorder une grâce, la volonté, la force, le courage d'être libre. Donne-moi la force, libère-moi. Et finalement, ce n'est que par une action surnaturelle de Dieu, que parce que lui, il agit, qu'à ce moment-là, on est réellement libre. Et on ne se laisse pas asservir par quoi que ce soit. On arrive à la fin. Et j'aimerais conclure juste en revenant sur ce livre des Actes. Paul était un homme libre, mais à cause de cette rumeur sur son attitude vis-à-vis des Juifs qui étaient parmi les nations, Jacques et les anciens vont lui demander de pourvoir à la dépense de 4 Juifs qui avaient fait un vœu à l'Éternel. Et pourvoir à la dépense de cela, eh bien, ça voulait dire payer pour tous les frais, les sacrifices, les bêtes. Je ne sais pas combien il y avait de bêtes, mais bon, c'était quand même quelque chose, quoi. Ce n'était pas une personne, hein, 4 personnes. Et en faisant cela, eh bien, Paul montrait que vraiment, il avait à cœur ces choses et qu'il était aussi un observateur de la loi, des coutumes de ses compatriotes. Pourquoi observait-il la loi ? Est-ce que c'est parce qu'il y voyait un moyen de salut ? Non. Ça, c'est bien clair. Est-ce que c'était parce qu'il y voyait là l'unique moyen de plaire au Seigneur, de vraiment plaire au Seigneur? Ben non, parce qu'il ne l'imposait pas aux païens. Ils étaient libres. Il l'observait, d'abord, je pense, par conviction personnelle, parce qu'il était juif lui-même, et que, eh bien, il était attaché aussi à ces choses, mais aussi parce qu'il ne voulait pas blesser, il ne voulait pas choquer les autres juifs et ses frères juifs. Et la liberté chrétienne, elle est merveilleuse. Jésus ne nous invite pas à venir adhérer à une religion qui va dominer, hein, qui va mettre un joug de servitude sur nous, nous obligeant à faire ceci, à faire cela, à être comme ceci, à être comme cela. Plutôt, il nous amène à la liberté. Il veut nous libérer. Il est dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Mais notre liberté, elle a des limites. Elle a certaines limites. Et c'est des limites qui sont bonnes, qui sont salutaires, qu'il faut qu'on accepte. C'est là où on est vraiment libre. Libre aussi de se soumettre à ce que Dieu nous dit.